RCF.
Vous écoutez RCF, c'est l'heure du 18-19 en région. Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Le magazine régional, 18h10-19h, avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardenne. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous. J'ai appris une triste nouvelle pour nos auditeurs. Vous n'avez pas votre téléphone sur vous. On n'aura pas la douce musique d'une sonnerie pendant ce direct, Jean-Pierre.
Eh oui, ils vont être privés.
Oui, c'est un petit peu, ils vont se sentir un petit peu comme orphelins.
Ah oui, moi je pense.
Bon, on va quand même donner le programme et puis on n'est pas tout seul en studio, Jean-Pierre.
Non, absolument, car il y a bien sûr les chroniqueurs habituels et en particulier le jeudi, je crois qu'il est question d'économie.
Avec Gérard-Marie Henry qui sera avec nous par téléphone aujourd'hui puisqu'il a pris un petit peu d'avance sur le calendrier des vacances scolaires et il s'est déjà rendu du côté de la Bretagne.
Et puis, on aura un maire encore aujourd'hui.
Effectivement, Benoît Courrier, qui est maire d'Aubencourt-Vauzelles dans les Ardennes. Ça sera l'occasion d'aller faire un petit tour dans ces communes que l'on vous fait découvrir au quotidien du lundi au vendredi dans le 18-19 en Champagne-Ardennes, mais aussi à partir de midi sur RCF Reims-Ardennes tous les jours, Jean-Pierre.
Absolument, tous les midis et même pendant les vacances de Noël, bien vous aurez quand même un maire qui va vous parler.
Des nouvelles de notre diocèse en deuxième partie d'émission, avec notamment une soirée de prière à Saint-André qui est co-organisée entre l'église de Bethel et la communauté du Chemin Neuf. Elisabeth et Thierry Mestrales seront avec nous dans les prochaines minutes, juste après le journal régional, avant de se rendre justement du côté de l'église Saint-André. Et puis on aura aussi des nouvelles du père Claude Collignon qui évoquera un livre, Rien n'est perdu pour Dieu, une espérance pour l'église du 21e siècle. De quoi s'agit-il en quelques mots?
Ben, il s'agit de refaire en quelque sorte l'itinéraire et puis l'apport du père Louis Lochet qui est né en 1914 dans notre diocèse et qui à l'âge de 60 ans, en 1974 est parti au Burundi fonder des foyers de charité. Il est mort en 2002 dans le sud de la France mais il a beaucoup marqué le diocèse de Reims.
Et puis on ira à la rencontre de trois invités dans le sud-ouest marnais, mais aussi pour parler des territoires de l'Argonne champenoise et des Ardennes avec des initiatives positives proposées par Famille Rurale et la Mobilité Solidaire. Lorsqu'on a fait le tour de son plateau ici à Reims, on n'a pas salué Kylian Janot, notre stagiaire à la rédaction. Bonsoir.
Bonsoir Alexis, bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Kylian.
On vous retrouvera notamment pour la météo tout à l'heure.
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'on peut avoir
un parapluie demain ou pas?
Ah oui, 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 un petit peu de pluie pour demain.
Ah, pas d'anorak, pas trop, il fera pas trop froid.
Non, pas trop froid.
Non, bah alors c'est pas mal. On vous retrouve tout à l'heure alors.
Voilà, on retrouve Kylian tout à l'heure à 18h13 comme tous les jours ou en tout cas comme tous les jeudis surtout. On commence avec notre chroniqueur. La question d'économie avec Gérard-Marie Henry. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, on va parler de la Turquie avec un changement radical de politique monétaire en Turquie. Déjà, si l'on fait une photographie de ce qu'il se passe, de quoi s'agit-il, Gérard-Marie Henry, en quelques mots?
Bah, il s'agit d'un pays qui est pas très loin de chez nous et dans lequel il y a une inflation énorme. Hein. Donc, nous, on pleure parce que on a encore des prix qui augmentent de l'ordre de 4 à 5% par an. Là, la Turquie, c'est plutôt sur une trajectoire de 60%. Donc, vraiment une très grosse inflation. Et jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le président turc Erdogan disait ce que certains disent, faut pas que la banque centrale monte ses taux d'intérêt parce que ça va encore faire monter l'inflation. Donc visiblement il n'avait rien compris à la façon dont une banque centrale lutte contre l'inflation. Et puis il a changé de casquette et d'un seul coup il a viré l'ancien gouverneur de la banque centrale pour mettre une gouverneuse de banque centrale tout à fait différente qui a décidé elle de lutter contre l'inflation en montant les taux d'intérêt.
Concrètement, comment ça se traduit, lutter contre l'inflation en montant les taux d'intérêt, Gérard-Marie Henry?
Alors, on rappelle hein, l'histoire, l'inflation, la hausse des prix, c'est parce qu'en fait, il y a trop de crédit qui est accordé aux agents économiques. Ils ont trop d'argent à dépenser. Alors, évidemment, chacun d'entre eux dit « j'ai pas beaucoup d'argent », mais quand il va voir le banquier, il emprunte. Et si la banque centrale n'a pas mis des taux d'intérêt élevés pour que la banque, ça lui coûte cher, la banque, elle va pouvoir prêter pas cher. Et la personne va dire, j'emprunte, et donc je peux acheter. Et comme elle achète et que les autres achètent, il y a une demande fort importante, et ça fait monter les prix des logements. Donc la solution pour lutter contre ça, c'est il faut que la banque centrale faille payer plus cher aux banques l'argent qu'elle leur prête. Si elle leur fait payer plus cher, les banques vont être obligées de répercuter ça sur les clients, qui vont faire un peu la gueule. On va leur dire, c'est du 6, c'est du 7, c'est du 8%. Ils vont dire, je peux pas, ça va me faire trop d'intérêt à rembourser, donc j'attends un peu. Et donc, à ce moment-là, ça calme ce qui se passe dans l'économie. Il y a moins de circulation monétaire, le crédit augmente moins, et normalement, au bout d'un certain temps, on va avoir un retour à la normale, c'est-à-dire une inflation sage de l'ordre de 2-3% par an. Peu ce qui se passe dans la zone euro.
Et est-ce que cette méthode fonctionne, Gérard-Marie Henry, parce qu'elle a été appliquée il y a quelques semaines, pour l'instant, c'est tout nouveau?
Dans l'exemple de la Turquie, ça n'a pas encore d'effet notable. D'une part, parce que les taux d'intérêt qu'elle met sont encore inférieurs à l'inflation. L'inflation est de l'ordre de 60%, et le taux directeur de la Banque centrale est seulement encore à 40%. Or, il faut que les taux auxquels la Banque centrale prête soient au moins équivalents au taux d'inflation pour que les gens se rendent compte que ça change. Pour l'instant, elle n'a pas encore appuyé trop fort sur la pédale. Mais on peut penser que ça va quand même avoir des effets, puisque sur les courbes que j'avais regardées, on voit la demande de crédit qui commence quand même à se réduire. Et donc ça, c'est vraiment un facteur extrêmement important. Ça veut dire que le Turc moyen se dit ça coûte plus cher d'emprunter, je ne vais peut-être pas emprunter tout de suite. Et donc ça calme ce qui se passe dans l'économie. Donc on devrait avoir, si on en reparle dans un an, et s'il ne l'a pas virée, parce que le problème, c'est qu'elle est à la disposition du président et il peut faire ce qu'il a fait avec le précédent, c'est-à-dire lui dire tu reprends tes billes et tu vas être remplacé par quelqu'un d'autre pour revenir à une politique monétaire populiste, comme on en a connu dans les années 70 en France, où effectivement à l'époque, ça valait le coup d'emprunter avec une forte inflation parce que vous saviez que quand vous alliez rembourser, ça vous coûterait moins cher. Et donc ça faisait que l'inflation était vraiment alimentée et qu'on avait des taux d'inflation à 10, 12, 14%, peut-être même 20% dans certains mois particuliers. Donc là, on va voir si ça se passe bien dans l'exemple turc. Mais c'est un changement assez phénoménal de politique, ce qui veut dire qu'Erdogan est assez intelligent. Ce qu'il racontait avant, c'était pour le grand public. Et maintenant, il sait qu'effectivement, il faut que la Banque centrale ait les coudées franches pour agir contre l'inflation.
Est-ce qu'il y a des objectifs derrière tout ça, Gérard-Marie Henry, des objectifs peut-être clairs et puis d'autres un petit peu plus cachés, pourquoi pas?
L'objectif clair, c'est d'abord de faire en sorte que les importateurs turcs ne soient pas dans le sombre. Qu'est-ce qu'ils font les importateurs turcs? Ils ont besoin d'euros et tous les jours, ils voient leur monnaie, la livre turque qui chute et donc il leur faut plus de livres pour acheter les trucs. Donc déjà, eux, ils sont pénalisés par l'inflation, par la baisse de la valeur de la monnaie turque. Donc déjà, ça va les aider. Deuxièmement, les exportateurs, eux, ils récupèrent des euros, donc ils sont très contents. Mais jusqu'à présent, la Banque centrale leur disait, écoute, tes euros que tu as récupérés en vendant sur le marché européen, tu nous les donnes et je te redonne des livres turcs. Et donc, les bons euros qui gardaient leur valeur, ils se retrouvent, eux, avec des livres turcs qui perdent 60% de leur valeur en un an. Donc, ils font aussi la gueule. Donc, on a pas mal de groupes de pression qui vont être satisfaits si l'inflation arrive à ralentir sans que la croissance économique soit complètement démolie. C'est toujours un peu ça les problèmes qu'on avait évoqués dans les trucs sur les politiques monétaires. C'est si la Banque centrale monte fortement ses taux directeurs, à un moment donné, ça peut vraiment avoir des effets négatifs sur la croissance puisque là, les gens n'empruntent plus, etc. Et donc, on a une récession. Alors, il y a une ligne étroite entre freiner et puis avoir vraiment un gros accident en freinant trop.
Ça, c'est pour la photographie de la politique monétaire turque à l'intérieur du pays, la politique interne. Est-ce qu'il a un impact sur la politique monétaire internationale de la Turquie?
Le gouvernement turc, et particulièrement le président Erdogan, voudrait bien que la livre turque arrête de baisser. Et elle a baissé vertigineusement. La Banque centrale a utilisé ses dollars et ses euros pour, sur les marchés d'échange, racheter sa propre monnaie pour essayer d'éviter que ça ne baisse encore plus. Et maintenant, les réserves de change de la Banque centrale turque sont faibles. Donc elle ne peut plus continuer à faire ce jeu-là. Donc la bonne solution, c'est que l'inflation arrive à être contrôlée. Il faut toujours un délai, on l'avait expliqué, entre le moment où la Banque centrale fait des décisions de politique monétaire et le moment où les agents économiques s'en rendent compte. Il faut entre 6 mois, 1 an de décalage, parce qu'il faut que les banques répercutent, il faut que les gens s'aperçoivent que ça a augmenté, etc. Donc c'est pas en 3 jours que l'on a des effets immédiats de politique monétaire. Mais normalement, on devrait avoir, au mois de juin, juillet 2024, on devrait voir s'ils sont partis dans la bonne direction ou si au contraire la politique monétaire est encore insuffisamment sévère pour calmer le jeu.
On a compris qu'on a besoin de temps à savoir si ce modèle est viable, mais est-ce un modèle qui peut être aussi durable, Gérard-Marie Henry, si ça fonctionne?
Alors là, c'est le problème de politique. Est-ce que le citoyen turc moyen va trouver que c'est bien cette nouvelle politique, même si ça l'empêche d'emprunter, de dépenser, etc., en se disant, on revient dans une situation normale? Ou est-ce qu'au contraire, ce citoyen turc va dire, c'était bien quand même même quand il y avait une hausse des prix, bon, moi, je m'en fiche, je voyais que je pouvais continuer à acheter parce que j'empruntais, etc. Et donc, la hausse des prix, je m'en fichais. Et donc là, au contraire, on a une situation qui est moins bonne, moins dynamique, puisque la Turquie a eu un taux de croissance grâce à cette politique anormale, mais elle a eu un taux de croissance largement supérieur à celle des pays voisins. Ils étaient sur une trajectoire de 4 à 5% de croissance par an. Mais avec les effets qu'on vient de raconter, c'est-à-dire une monnaie qui s'effondre, une inflation très forte, etc.
Eh bien, un grand merci Gérard-Marie Henry de nous avoir répondu à ces questions concernant la Turquie et cette nouvelle politique monétaire. On vous dit à très bientôt avec une nouvelle question d'économie.
À très bientôt, Alexis.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, dans ce magazine régional, toujours avec Jean-Pierre Benoît, toujours avec Kylian. Kylian, c'est vrai que lorsque vous êtes en stage ici, on voyage plutôt à Reims et ses alentours.
Oui,
mais
oui.
On ne vous a pas encore trop emmené dans les Ardennes.
Et non.
Alors, on a trouvé une astuce pour vous y emmener, comme on le fait avec nos auditeurs. Eh bien, on a des maires, comme ça, qui viennent de petites communes, qui nous parlent. Et ce soir, on va du côté de Aubencourt-Vauzelles avec Benoît Carrier, qui est l'édile de la commune. Évidemment, un maire qui nous parle. C'est avec vous, Jean-Pierre.
Et Benoît Carrier, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on est très content de faire connaître dans cette émission des communes. Et là, dans les Ardennes, est-ce que vous pouvez nous présenter cette commune d'Aubencourt-Vauzelles? Combien d'habitants?
Petit village de 103 âmes, situé entre Neuvy-Charrière et Sauce-Montclin.
Donc pas très loin de Rethel, pas très loin non plus de Charleville. Bon, il y a quelques kilomètres quand même, mais bon.
Oui, on n'est pas loin, on est placé juste à côté de Wanic, à 7-8 km de Wanic, kilomètre de Rethel.
Voilà, on situe bien d'ailleurs nos amis rémois qui prennent l'autoroute A34, ils voient bien, ils situent bien Wanic. Alors, Benoît Carrier, vous-même, vous avez toujours souhaité être maire, ça, vous étiez conseiller municipal, c'était dans votre action, vous étiez membre peut-être d'association, comment ça s'est passé pour vous?
Bah écoutez, je me suis retrouvé un petit peu par hasard au conseil municipal et puis suite à une démission du maire à cette époque, eh bien voilà, je me suis retrouvé maire de la petite commune. Une grande aventure.
C'est une grande aventure, justement. Tous les maires nous le disent. Mais votre commune aujourd'hui, avec ses habitants, ses 103 habitants, c'est plus des retraités, des agriculteurs. Est-ce qu'il y a quand même quelques jeunes qui viennent, j'allais dire, s'implanter dans le village?
Oui, depuis quelques années, on a des jeunes couples avec des enfants. Donc je dirais que le village rajeunit, se repeuple un petit peu. Donc c'est bien.
Ah, c'est super. Et vous, évidemment, vous connaissez tout le monde. Et justement, on se dit, le maire, il est très souvent sollicité. Et on a beaucoup de maires qui hésitent maintenant à reprendre des responsabilités parce qu'ils n'ont pas toujours le temps. Et c'est vrai que c'est plus prenant qu'on ne le pense.
Oui, je dirais, c'est toujours un temps plein. Hein. Je dirais, on n'a pas de... Il n'y a pas de temps mort. Hein. On peut être appelé à tout moment, le week-end, bon, bien sûr, la semaine. Mais bon, c'est passionnant.
Aujourd'hui, il y a des communautés de communes. Est-ce que le maire, alors ça va être un peu familier, mais est-ce qu'il est encore le patron dans sa commune? Oui, parce que c'est lui qu'on voit, c'est lui qui incarne la responsabilité. Le maire, ça compte encore dans un village. Hein.
Oui, c'est important. On peut encore prendre des décisions hein, sur certains travaux. Je dirais, on a encore un peu de la main. C'est vrai que c'est ce qui est intéressant de dire.
Alors, quel type de demandes, de requêtes, de questions sont formulées par vos habitants, par vos administrés? Il y en a qui viennent demander des renseignements personnels, parce que beaucoup cherchent s'ils ont le droit de faire ci, s'ils ont le droit de faire ça. Ils viennent vous voir, ils viennent vous trouver tout de suite.
Bah oui, c'est vrai que dès qu'il y a un petit souci ou une question, on pense toujours au maire ou un problème. Et c'est vrai qu'on essaye de répondre rapidement. À toutes les questions que l'on nous pose. Alors, c'est pas toujours facile. Il faut être présent, il faut être attentif, à l'écoute.
Et il faut que vous fassiez preuve, certainement, Benoît Carrier, de beaucoup de diplomatie, parce que vous avez forcément, avec des habitants, des tempéraments différents, des gens qui montent tout de suite au créneau, d'autres qui sont plus timides. Il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie. Hein.
Oui, il faut être diplomate, il faut apprendre à gérer un petit peu toutes les situations. Puis je dirais qu'après la situation du Covid, on s'est aperçu quand même que les gens s'étaient un petit peu retranchés sur eux-mêmes, donc ils ont beaucoup de demandes et ils sont assez demandeurs, oui, je dirais, de beaucoup de choses. Oui.
Alors justement, vous venez d'évoquer, Benoît Carrier, le Covid. Est-ce que vous avez senti, au moment du Covid et après le Covid, un désir, vous l'avez déjà mentionné, de jeunes ou d'habitants nouveaux de venir à la campagne. Parce que bon, ils ont vu l'intérêt d'avoir un jardin, d'avoir un coin où ils peuvent sortir de leur... Ça change d'un appartement.
Oui, alors on a eu quelques jeunes, je pense, qui sont arrivés après le Covid, oui, pour la tranquillité, je dirais, l'apaisement. Et puis on a une demande aussi de certaines personnes de se retrouver. On s'aperçoit que il y a eu un vide, je pense, durant ces années Covid. Et il y a des gens qui cherchent à faire des rencontres, à se retrouver un petit peu.
Et c'est sans doute plus facile dans un village qu'en ville, quand on est dans une résidence, dans une tour, même dans une maison. À la campagne, c'est peut-être plus simple, non?
Oui, c'est plus simple. C'est vrai qu'on se connaît tous. Beaucoup sont en famille entre eux, donc c'est vrai que les rapports sont quand même beaucoup plus faciles. Alors, pas toujours évident non plus, mais disons que ça aide beaucoup.
Alors, dans votre commune, même si, bien sûr, les décisions sont parfois prises au niveau des communautés de communes, mais est-ce que vous avez des projets en cours pour les mois qui viennent, les années qui viennent, ou même un petit peu plus loin? Est-ce que vous avez des choses qui sont, j'allais dire, sur le four?
Disons qu'on a fait tout ce qui est accessibilité, je dirais, au niveau de l'église, de la mairie. Et puis, donc, on a fait de l'enfouissement réseau, on a fait de l'éclairage public. Toujours un petit peu des projets, même si ça coûte, je pense que c'est important de le faire. On a une restauration certainement prochainement de l'église.
On aura l'occasion d'en reparler alors.
Oui, je pense.
Alors justement, on a encore 2 à 3 minutes, mais c'est l'occasion pour vous dire que si vous avez des événements du côté d'Aubencourt, Vauzelles, s'il y a une fête, une kermesse, un rassemblement, une restauration d'église, vous nous passez un petit coup de fil sur RCF et puis bien entendu, on en parlera. Je ne pense que c'est qu'un début avec tous ces maires qui sont répartis entre Reims et les Ardennes. Alors, maire et vie professionnelle, maire et vie familiale, est-ce qu'un maire, il doit faire attention aussi à tout ce qui se passe? Parce que s'il a plusieurs activités, c'est pas toujours facile à résoudre tout ça.
Non, c'est beaucoup d'activités. C'est vrai que je travaille dans un IME. À côté de Dricourt. Et donc, ça me prend déjà un petit peu de temps. Je fais partie d'associations aussi, parce que je pense que c'est important.
Vous êtes très impliqué.
Oui, je pense que oui, il faut, parce qu'il y a une demande, et il faut savoir aussi être présent. Et puis, si on veut que la jeune génération rejoigne les associations, il faut aussi montrer l'exemple.
Vous avez peut-être des situations un petit peu anecdotiques, mais ça, je vous prends de court, à nous donner une rencontre, quelqu'un qui vous demande quelque chose d'impossible. Vous savez, on dit dans certains villages qu'il y en a qui arrivaient de la ville qui ne voulaient pas que le coq chante. Enfin, il y a quand même des situations pas possibles. Vous ne pouvez pas rendre service quand même à tout le monde. Vous n'avez pas tué le coq parce que le voisin entend du bruit.
Non, tout à fait. Je pense que quand on vient à la campagne...
Il faut prendre la campagne telle qu'elle est.
Voilà, avec ses avantages et ses inconvénients. Moi, je préfère voir un tracteur traverser le village qu'un gros camion.
Bien sûr.
Voilà, c'est vrai que y a le monde agricole, il faut accepter. Voilà, mais ça fait partie du jeu, je dirais.
Et puis certainement, s'il y a des enfants un peu plus jeunes, ils sont très contents de se retrouver, de voir des animaux, de se trouver à la campagne, d'avoir un peu plus d'air, etc. Ça aussi, ça n'a pas de prix, monsieur le maire.
Ah ben non, tout à fait. Nous, quand on quitte le village, on a des chemins, on peut faire des promenades. Je veux dire, on a plein d'avantages, des activités sportives. On voit beaucoup les enfants dans le village. On a la chance d'avoir un petit peu d'enfants qui reviennent, je dirais, hein, puisque c'est cyclique. On a une dizaine de jeunes. Et c'est bien agréable quand même de les voir en vélo ou de les voir dans le chemin avec les parents ou avec les chiens.
Alors, pour terminer la question, j'allais dire, qu'on pose pour cette année, en tout cas à tous les maires que nous avons, est-ce que vous êtes un maire heureux? Moi, j'ai le sentiment que vous êtes heureux quand même de cette mission de maire.
Ah oui, je la prends très au sérieux. Oui, je suis heureux de ce que je fais. J'essaie de rendre service à mon niveau, d'être le plus disponible possible et de faire le maximum.
Eh bien, on vous remercie beaucoup, Benoît Carrier, maire de Aubencourt-Vauzelles dans les Ardennes, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On aura le plaisir de vous retrouver prochainement sur l'antenne. Au revoir.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Au revoir.
Et vous-même, Jean-Pierre, on vous retrouvera prochainement, d'ailleurs très bientôt, puisque vous serez avec nous en deuxième partie d'émission. Mais tous les soirs, Jean-Pierre, et puis tous les midis sur RCF Reims-Ardennes, lorsque vous interrogez un maire, à la fin de l'entretien, vous lui posez toujours cette question. Est-ce que vous êtes un maire heureux? Et vous, Jean-Pierre, est-ce que vous êtes quelqu'un d'heureux?
Ben oui, absolument.
Ah ben tant mieux.
D'ailleurs, ça passe, on l'a vu avec les maires, ça passe par des passions. C'est des maires qui sont passionnés. Et quand on est passionné, ben on est heureux, forcément.
Donc vous êtes passionné par la radio,
entre autres.
Eh bien,
mais
voilà.
C'est vrai, là. Oui, j'ai toujours aimé, oui, depuis.
Et vous, Kylian, est-ce que vous êtes quelqu'un d'heureux de faire votre stage à RCF?
Ah, bah, c'est un très bon stage. Je suis très heureux d'être venu ici.
Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Ça sera la semaine prochaine, notamment, puisque vous êtes encore avec nous jusqu'au vendredi 22 décembre. Et jeudi, à la place, de la chronique, là où ce soir, on parlera d'une soirée de prière. C'est vous qui nous ferez un petit débriefing de votre stage, si vous le voulez bien.
Ah, mais avec plaisir.
Voilà, merci Kylian, on vous retrouve dans une poignée de secondes avec la météo, mais pour l'instant il est 18h30, c'est l'heure de retrouver le journal régional avec Alexis Claudrette.
Les titres de ce jeudi 14 décembre 2023 à Châlons-en-Champagne, une opération zonale de contrôle routier a été organisée par la zone de défense et de sécurité Est. Plusieurs points de contrôle des véhicules légers ont été réalisés. Explication. Les femmes en milieu rural peuvent libérer la parole. En tout cas, c'est le souhait de l'association Solidarité Paysan pour 2024. Une première rencontre est organisée demain à Poitéron.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Jeudi dernier, une opération de contrôle a été organisée par la zone de défense et de sécurité Est sur le territoire. Cette action s'est inscrite dans le cadre d'une opération zonale organisée par Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est, qui a lieu sur l'ensemble des 18 départements de la zone région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Une opération avant tout de prévention pour Antoine Guilbeault, chef de la circonscription de sécurité publique à Châlons-en-Champagne.
C'est de prendre un axe où on sait qu'il y a énormément de passages, notamment sur des utilitaires, des camions de moins de 3,5 tonnes, qui sont très souvent employés pour de la livraison et qui peuvent, quelquefois, du fait de leur activité routière très, très soutenue, puisque c'est souvent des gens qui travaillent longtemps. Il y a des règles qu'il faut rappeler, donc on est ici dans un esprit de prévention pour rappeler les règles relatives au respect du code de la route, des nécessités pour les véhicules en termes d'assurance, d'entretien. Et lorsqu'en effet, on observe trop de d'infractions ou vraiment des comportements dangereux, dans ce cas-là, on peut passer de la prévention à la répression.
À Châlons-en-Champagne, avenue Pierre-Semard, policiers nationaux et municipaux confondus ont contrôlé les véhicules légers pour s'assurer de leur conformité. Antoine Guilbeault.
On vient de contrôler un véhicule qui est un exemple assez concret de ce que l'on vit au quotidien. Donc c'est un utilitaire avec des individus qui ne portent pas de ceinture de sécurité, qui n'ont pas d'assurance valide. À la fois, ça fait peser un risque pour, évidemment, les différents usagers de la route, puisque lorsque un accident a lieu, s'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de couverture et de responsabilité. Donc on peut avoir des personnes qui ne sont pas solvables et des victimes qui ne sont pas indemnisées en temps et en heure. On a également, voilà, le sujet évidemment de la ceinture de sécurité, des excès de vitesse, du téléphone au volant, notamment pour les artisans ou pour des auto-entrepreneurs qui sont eux-mêmes chargés de faire vivre leur entreprise. Donc toutes ces personnes, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur elles et on doit leur rappeler les règles parce qu'en termes de sécurité, c'est vrai que ces comportements sont extrêmement accidentogènes et font peser de gros risques sur les usagers de la route.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Les véhicules utilitaires légers interviennent pour 17% dans les accidents mortels de l'ensemble du département marnais. Jean-Pierre, c'est du direct. Je vais vous emmener à Charleville-Mézières. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'était attendu à 18h30. Les premiers noms du Cabaret Vert 2024. Ils viennent d'être révélés à l'instant. On aura le droit à Justice, Queens of the Stone Age, voilà, pour être complet, le rappeur SCH, Korn, Chaka Ponk, parmi quelques autres groupes, on n'a pas encore toute la liste sous les yeux, on a Michael Moore, Flogging Money qui seront là, Nino notamment. Est-ce qu'il y a des groupes qui vous parlent, qui vous font envie, Kylian? C'est une programmation très rock cette année.
Eh ben, il va falloir trouver avec qui on va pouvoir y aller pour cette programmation.
Évidemment, eh bien, les équipes de RCF seront certainement
Mais
mobilisées
Chaka
sur
Ponk,
place.
Mais Chaka Ponk, c'est peut-être que j'ai estropié le nom, il est déjà venu.
Chaka Ponk, t'es déjà venu, Jean-Pierre,
Chaka
ça
Ponk
doit être...
Venu.
Alors là, je vous cache pas que vous me prenez à chaud, on n'avait pas du tout de révélation sur les noms potentiels, mais je crois que c'est déjà la troisième fois qu'ils viennent au Cabaret Vert depuis la création du festival, effectivement. Patrice Vergriette, ministre délégué au logement, était à Châlons en Champagne cet après-midi. Il a notamment visité le centre social et culturel du Verbeau, puis un immeuble de bureaux transformé en logement, puis encore un logement remis sur le marché grâce à l'aide municipale. Patrice Vergriette a ensuite pris le temps d'aller faire un tour sur le marché de Noël. L'association Solidarité Paysan Marne-Ardenne reste mobilisée en cette fin d'année et propose une action destinée plus particulièrement aux femmes d'agriculteurs, partie du constat que c'était souvent les femmes qui faisaient la démarche d'alerter sur le mal-être de telle ou telle situation, mais qu'ensuite elles avaient parfois du mal à se libérer. L'idée a été de créer un groupe de parole de femmes en milieu rural. Odile Mouchet, présidente de l'association Solidarité Paysan Marne-Ardenne.
La plupart du temps, ce sont les femmes qui appellent le téléphone pour dire « on a un problème, je n'y arrive plus, on n'y arrive plus ». Donc on s'est dit dans l'équipe de bénévoles qu'il y avait quelque chose à faire pour les femmes. Donc on va proposer un groupe de parole, tout simplement déjà pour que les personnes s'autorisent un peu de répit, sans arrière-pensée, rien que pour venir, pour certaines, décharger des choses, pour d'autres, rencontrer du monde. Voilà. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis plusieurs mois et que nous allons réaliser, mettre en forme le 14 décembre.
La première rencontre, c'est donc demain, vendredi 14 décembre, de 14h à 16h, à la salle communale du Prévaguet de Poitéron. C'est là que les bases de ce groupe seront posées, mais si vous ratez cette première discussion, ces premiers échanges, d'autres sont à venir tout au long de l'année 2024. Odile Mouchet.
Oui, tout à fait. Donc là, on va se jeter dans le grand bain, si on peut dire. Et ce groupe-là, il va prendre naissance ce 14 décembre, mais il va évoluer au fur et à mesure avec le public qui sera présent et avec les bénévoles qui vont l'animer et le construire.
Des propos recueillis au micro de RCF France-Ardenne. 2 heures, c'est juste assez de temps pour faire connaissance, échanger, partager des expériences autour d'un café. L'idée est de parler de tout, sans tabou, sans jugement, et de se donner du temps pour soi. Il est conseillé d'avertir de sa présence en contactant la présidente de l'association, Odile Mouchet, au 06 41 98 80 81. 06 41 98 80 81. Il n'y avait pas que le Paris Saint-Germain qui jouait en Coupe d'Europe hier soir. En basket, les Flammes Carolo recevaient la Roche-Vendée dans le 16e de finale aller de l'Eurocoupe féminine. Score nul, 71-71. Pas de prolongation puisque le vainqueur est désigné au meilleur des deux rencontres. Match retour mercredi prochain à la Roche-Vendée. Entre-temps, samedi, cette même affiche sera jouée en championnat. En football, c'est officiel, le club de National 3 de Reims-Satane a fait appel de la décision de la Fédération française de football de le disqualifier de la Coupe de France pour avoir aligné sur la feuille de match un joueur suspendu qui n'est pas entré en jeu. Affaire à suivre. Après le sport, place à la météo avec notre stagiaire à la rédaction, Kylian Janot. Bonsoir Kylian.
Rebonsoir Alexis.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour demain?
Alors pour demain, les Ardennes et l'Aube retrouveront un temps pluvieux. Dans la Marne, ce sera un temps très nuageux. Les températures pour cette matinée seront de 6 degrés pour Rethel, 7 degrés pour Châlons en Champagne et 3. Dans l'après-midi, un temps nuageux recouvrira toute la région, sauf aux alentours de Vitry-le-Croisé où il y aura malheureusement de la pluie. Les thermomètres afficheront 9 degrés à Vitry-le-François. À Nogent-sur-Seine ainsi qu'à Charleville-Mézières, la température sera semblable. Demain, nous souhaitons une bonne fête à tous les Ninons.
Eh bien, une bonne fête à tous les Ninons, effectivement. Un grand merci, Kylian, et puis on vous retrouve demain, 18h10, pour le magazine régional. Ainsi se referme ce journal tout de suite. 18-19 en Champagne continue avec un rendez-vous à vous annoncer pour ce soir d'ici quelques instants.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
On retrouve par téléphone Elisabeth et Thierry Mestralet qui sont avec nous pour nous présenter une soirée de prière pour la guérison des malades. Le rendez-vous, c'est jeudi. Thierry, Elisabeth, bonjour.
Bonjour Alexis.
Bonjour Alexis, bonjour aux auditeurs.
Alors ce rendez-vous, de quoi s'agit-il en quelques mots?
Alors d'abord, ça se passe à l'église Saint-André à Reims, avenue Jean Jaurès.
Oui, c'est une soirée de prière pour la guérison des malades. Alors nous croyons que Jésus guérit toujours aujourd'hui et qu'il désire notre bien. Donc nous avons voulu donc offrir ce temps de prière pour la guérison des malades à toute personne qui le souhaite.
Que va-t-il se passer tout au long de cette soirée?
Alors, on va commencer par un temps de louange pour Dieu, pour tout ce qu'on vit. Et puis ensuite, il y aura un petit topo qui sera donné par l'église de Bethel. Il y aura quelques témoignages de guérison. Et puis ensuite, nous prierons pour les personnes malades individuellement.
Eh bien voilà, ça c'est pour le programme. L'église de Bethel, effectivement, peut-être avoir quelques précisions?
Oui, alors l'église de Bethel, c'est une église qu'on appelle une église évangélique ou aussi américaine, qui s'appelle aussi des méga churches. Ce sont des églises, oui, voilà, importantes, locales. Elle se situe en Californie, à Reading, plus précisément. Elle n'a pas de présence en France et elle forme des personnes en particulier au ministère de la guérison. Et cette semaine, plusieurs de ses membres sont en France pour en particulier rencontrer la communauté du Chemin Neuf, parce que nous avons des liens avec cette église. Et voilà, ils seront à Reims pendant 2 jours et donc on a souhaité organiser cette soirée avec eux pour qu'ils mettent vraiment au service de la communauté ce ministère de guérison.
Alors, comment on peut imaginer une soirée animée par cette communauté, Elisabeth et Thierry Mestralet?
Ils vont, comme on disait, ils vont surtout nous faire le topo et puis nous faire des témoignages et puis ensuite prier individuellement pour chaque personne. La communauté du Chemin Neuf, elle est là pour, je dirais, en particulier pour la louange. On les aidera aussi en fonction de nos capacités. Mais voilà, ils auront plus particulièrement ce rôle de prière. Plusieurs d'entre eux se forment, en tout cas, au ministère de la guérison. Et bon, ils ont déjà pratiqué cela avec la communauté dans d'autres endroits. Et c'est vraiment très beau et très simple surtout. C'est pas quelque chose de spectaculaire avec des grandes envolées, comme on dit. C'est vraiment des prières simples, mais ils ont vraiment ce charisme, comme on dit.
Et lorsque l'on dit soirée ouverte à tous, ça veut dire que, j'allais dire, petits et grands croyants peuvent se retrouver à ce temps fort.
Alors oui, tout le monde peut se retrouver. On n'a pas besoin d'être malade ou avec un problème de santé pour venir à cette soirée. Tout le monde est invité, de l'enfant jusqu'à... Voilà, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de situation particulière. On peut peut-être aussi penser autour de nous à des personnes qui sont malades, qu'on peut accompagner, justement, qui n'auront peut-être pas la force nécessaire de venir tout seul. Donc c'est vraiment une soirée ouverte à tous.
C'est aussi, je dirais, ouvert même à des gens qui sont non-croyants. Et c'est vrai que c'est peut-être pas toujours très facile pour eux de franchir la porte d'une église. Donc on va s'efforcer de les accueillir au mieux. Mais au travers de la guérison des malades, on sait que Jésus peut rencontrer, rejoindre chacun, même si on est loin de lui. Et donc c'est un peu notre désir. Ça peut être aussi un temps d'évangélisation pour notre Église catholique, de permettre au maximum de gens de rencontrer Jésus au travers de la guérison.
Le message est passé, en tout cas un grand merci Elisabeth et Thierry Mestralet. Vous attendez combien de personnes pour cette soirée? Vous espérez combien de personnes?
Dieu seul le sait.
Mais on espère toujours une Église pleine, mais on verra bien. On compte en tout cas sur cette interview sur RCF aussi pour que des gens nous écoutent. Après, effectivement, comme dit Babette, Dieu seul le sait. Nous avons fait notre tâche d'invité. Après, c'est Dieu qui fait le reste.
Eh bien, merci Elisabeth et Thierry. On vous dit à très bientôt sur RCF.
Merci, à bientôt, Alexis.
À bientôt.
Et merci.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, cette fois, on part dans l'antenne du Sud-Ouest Marnais à 18h42 de l'association Famille Rurale qui lance un appel aux bénévoles. Dans le cadre de son dispositif Mobilité Solidaire, elle cherche des nouveaux conducteurs. Zoom sur ce dispositif avec François Mercier, coordinateur sur le territoire chargé de la mobilité sur le Pays de Brie, et Séverine Comeau, chargée de territoire, et Jocelyne, conductrice bénévole. Toute cette belle équipe est au micro de Christian Lanciot.
Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. François, donc, vous êtes chef de projet Famille Rurale Marne sur les secteurs Brie-Champagne. Séverine, on en parlera après, donc elle va nous parler également en particulier donc de tout ce qui concerne les rapports avec les bénéficiaires et puis les conducteurs bénévoles. Et enfin, Jocelyne, qui est conductrice bénévole toute récente, depuis 2 mois, mais elle a déjà fait une vingtaine de parcours et de trajets, donc c'est bien. Alors François, on fait un petit historique, rappelez-nous un petit peu donc comment est né et comment fonctionne donc ce service depuis maintenant 3-4 ans, je crois.
Alors oui, la mobilité solidaire a démarré en 2018, sur le secteur Brie et Champagne, là où on se trouve, mais également à d'autres endroits dans le département. Le principe, c'est que ce sont des conducteurs bénévoles qui vont transporter des personnes sans moyen de déplacement. Ça peut être pour tout type de trajet. On a quand même quelques conditions pour ces trajets. Alors la première condition, c'est que pour pouvoir utiliser ce service-là, il faut soit avoir 60 ans ou plus, soit bénéficier de l'allocation adulte handicapé, ou soit être bénéficiaire du RSA. Voilà. Ensuite, sur l'organisation des trajets, bah, une fois que le bénéficiaire est inscrit, alors Séverine va détailler un petit peu comment se passe cette inscription, mais en tout cas, une fois qu'il est inscrit, il contacte notre standard pour faire part de sa demande. Et nous, au niveau de Famille Orale, on cherche un conducteur parmi ceux qui sont inscrits chez nous, disponible pour l'emmener à son rendez-vous.
Vous nous faites part un peu de l'évolution du service depuis maintenant 5 ans, puisque ça fait 5 ans, 2018-2023.
Alors, c'est un service qui se développe, alors en particulier sur le secteur Brie et Champagne, qui a toujours été...
À la pointe,
voilà, c'est ça. Alors, si on regarde, par exemple, les chiffres depuis l'année dernière, on était à peu près 130 bénéficiaires inscrits sur tout Brie et Champagne. Là, on est à presque 160, déjà, là. Bon, les conducteurs, on est à peu près stable, avec une dizaine de conducteurs sur ce secteur-là. Au niveau du nombre de trajets, on en a fait 480 l'année dernière, et là, fin septembre, on était déjà à plus de 600, 623 exactement.
Donc ça fait une évolution de plus de 20%.
C'est ça. Donc ça, le nombre de trajets évolue beaucoup. Le nombre de kilomètres parcourus évolue, mais moins vite. On était à un peu plus de 26 000 l'année dernière. Là, on a atteint les 26 000 quand même déjà fin septembre. Mais c'est vrai qu'on voit que le nombre de trajets augmente plus vite parce qu'on constate des trajets de plus en plus de trajets, mais avec beaucoup de trajets courts. C'est vrai, plus que l'année dernière.
Alors, en deux mots, les conducteurs bénévoles, ils ne sont pas rémunérés, ils sont indemnisés.
C'est ça, bah c'est le bénévolat. Donc, ils sont indemnisés parce qu'ils utilisent leur véhicule personnel. Donc, c'est eux, voilà, c'est leur véhicule, c'est eux qui mettent du carburant dedans. Donc, pour cela, ils touchent un défraiement de 47 centimes du kilomètre. Donc, à partir du moment où ils sortent de chez eux, ils vont chercher la personne, ils l'emmènent à leur rendez-vous. Et voilà, et jusqu'au retour à leur domicile, au conducteur, hein, donc, ils touchent 47 centimes par kilomètre.
Bien. Merci François pour ces propos liminaires, on va dire. On va donner la parole à Séverine. Alors vous recevez la demande, vous allez voir la bénéficiaire, comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Dès que j'ai la demande, en général, j'ai les coordonnées précises, soit parce que les gens ont appelé la plateforme, soit parce que c'est des partenaires qui nous l'ont proposé. Je prends contact avec eux, je prends rendez-vous, je vais à domicile, je leur explique bien en détail le service de mobilité solidaire. Si je vérifie les conditions d'accès, si elles sont vérifiées, je commence le dossier d'inscription. Une fois que tous ces papiers-là sont lus et signés, eh bien, j'ai une conversation avec le bénéficiaire pour vérifier son état de santé. Parce qu'il faut quand même vérifier que cette personne est apte à monter et descendre de voiture, apte à faire ses courses, par exemple, plus ou moins en autonomie, puisque les conducteurs peuvent accompagner les courses. Mais il faut quand même que la personne puisse se déplacer et avoir un comportement, j'ai envie de dire, adéquat, c'est-à-dire...
Les conducteurs ne sont pas infirmiers, quoi.
C'est tout à fait ça. On ne peut pas les mettre en difficulté parce qu'ils sont bénévoles et qu'ils ont un grand cœur, mais ils ont aussi des limites et on ne veut pas les mettre en difficulté. Voilà.
Et ça vous permet de voir donc, également, donc, pour prévenir éventuellement, si vous voyez qu'il y a un petit problème, pour prévenir les conducteurs.
Oui, effectivement, et ça nous arrive parfois de prévenir que la personne, par exemple, est malvoyante, ça peut être quelque chose comme ça, ou qu'elle a des troubles cognitifs, donc elle a parfois des réponses un petit peu inadaptées, qui ne sont pas en rapport avec le sujet de conversation. Voilà, ça peut être des choses comme ça.
Vous avez un besoin de conducteur ?
Alors, on a un besoin de conducteurs parce que les inscriptions de bénéficiaires sont exponentielles, parce que le bouche à oreille il fonctionne bien, parce que les partenaires jouent le jeu, tout le monde joue le jeu, parce que c'est un service qui répond vraiment à un besoin. Et du coup, on a besoin de conducteurs bénévoles parce que, comme ils sont bénévoles, ils ont aussi la garde de leurs petits-enfants, ils ont des activités de loisirs, etc. Jocelyne nous en parlera peut-être après. Et du coup, on a besoin quand même d'avoir un roulement qui se fasse sans qu'on ait la pression, sans que... On n'aime pas refuser des demandes de trajet. Voilà.
Pour être clair vis-à-vis des conducteurs, ils n'ont aucune obligation, ils répondent oui ou non, mais ils n'ont aucun engagement à préalable.
Ah, ils n'ont aucun engagement, ils répondent oui ou non, ils n'ont même pas besoin de se justifier en fait. On pose la question et tant mieux s'ils acceptent, mais s'ils n'acceptent pas, on continue à suivre la liste des conducteurs et puis...
Merci Séverine. Alors, la transition est excellente. Ben, vous, depuis deux mois, Justine, vous en avez eu pas mal de trajets. Ils vous ont fait pas mal d'appels à vous.
Oui, mais bon, c'est très bien comme ça.
Alors, faites-nous part un peu de votre ressenti depuis deux mois. Donnez envie à nos auditrices et auditeurs de devenir conducteurs bénévoles.
Oh, mais c'est très sympa. On voit du monde, on voit plein de gens,
on peut discuter. Enfin, c'est très valorisant parce que bon, les gens sont contents.
Vous avez l'impression que vous leur rendez service, mais qu'eux, ils vous le rendent aussi, ils vous donnent quelque chose en même temps.
Oui, c'est tout à fait ça.
Concrètement, pour vous, Justine, comment ça s'est passé alors? Comment vous avez dit oui?
Ah, je me suis trouvé un peu devant le fait accompli. Enfin, parce que bon, j'ai entendu une présidente chez nous, la famille rurale, en parler. Et puis, j'ai voulu avoir des renseignements. Puis bon, elle a contacté Famille Rurale et voilà. Et puis bon, on a discuté. J'ai signé le même jour, sans savoir trop quoi. Puis finalement, ben, je ne regrette pas du tout. Quoi.
Est-ce qu'on peut dire qu'au départ, vous avez dit oui pour ne pas dire non, et puis que maintenant, vous êtes contente?
Ah oui, tout à fait. Vous pouvez le dire. Pas de souci. C'était vraiment ça.
Donc, vous ne regrettez pas?
Ah non, du tout. Du tout. Et bon, si y a des bénévoles qui veulent venir, qui n'hésitent surtout pas, c'est... Franchement, ça vaut le coup de le faire.
Bien, ben alors on va demander à François, puisque s'il y a des bénévoles qui veulent venir, comme l'a dit Jocelyne, il va nous dire comment contacter, par téléphone ou...
Oui, ben le plus simple, c'est le téléphone. Ça permet déjà d'avoir un échange directement avec la personne. Donc le numéro de téléphone, c'est 06 42 83 56 07.
On le redit.
06 42 83 56 07. 07. Et puis là, donc, on va avoir un premier échange avec la personne, hein, voir si elle a bien compris ce qu'était mobilité solidaire, qu'est-ce qui l'a attiré pour faire ça. Et puis, rapidement, on lui propose de la rencontrer pour en parler encore plus. Si ça peut se faire tout de suite, on l'inscrit, hein, on vient avec le dossier d'inscription et la personne s'inscrit et on lui remet ce qu'on appelle, nous, une mallette de conducteur. Donc, des choses dont elle va avoir besoin pour ses trajets, notamment un carnet avec des reçus, etc. Enfin voilà. En tout cas, elle devient officiellement, devient conducteur bénévole officiellement.
Alors, j'espère qu'avec tout ce que vous avez dit, vous avez donné envie d'avoir envie aux futurs conducteurs bénévoles du coin de Cézanne, Montmirail, Fère-Champenoise, enfin on va dire le sud-ouest Marne.
C'était Christian Lancio depuis Cézanne, une belle initiative proposée dans le sud-ouest marnais effectivement, mais aussi dans les autres secteurs de la Champagne-Ardenne. On pense évidemment à l'Argonne champenoise ou encore aux Ardennes, 18h51.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Oui Alexis, il y a parfois des auditrices et des auditeurs qui nous demandent, qui nous posent des questions. Et alors il y en a une qui vient de nous appeler tout à l'heure en nous disant « J'ai un autostoppeur à prendre sur la route de la 34, mais j'hésite. Est-ce que vous lui donnez un conseil ?»
Ah ben, si on peut aider des gens à leur rendre service et qu'on est sur la bonne route, Jean-Pierre, évidemment, on essaye de pouvoir accompagner les gens, de faire un petit bout de chemin ensemble. Il y a certaines personnes qui peuvent un peu avoir peur de
oui,
demander ce qui va se passer.
C'est vrai, parce qu'il y a quand même une forme d'insécurité. Les gens peuvent se poser des questions. Mais vous avez dit solidarité, effectivement.
Alors, surtout qu'on parlait d'initiative solidaire il y a quelques instants avec Christian Lancio et ses invités. Toujours est-il qu'un autre invité est en ligne, Jean-Pierre, et je crois que c'est avec vous. De qui s'agit-il?
Avec nous aujourd'hui, le père Claude Collignon. Claude Collignon, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous venez nous parler d'un livre, un livre qui vient de paraître et qui concerne le père Louis Lochet, bien connu des Rémois. Son titre, Rien n'est perdu pour Dieu, avec un sous-titre, Une espérance pour l'Église du XXIe siècle. Claude Collignon, vous aviez déjà préfacé des livres à propos de Louis Lochet, bien connu des Rémois, né en 1914, mort en 2002. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Claude Collignon, qui était le père Louis Lochet? Il était d'abord... un enseignant, un professeur.
C'est vrai, c'était un enseignant, bien sûr, mais je dirais en priorité que c'était un Rémois. Il est né à Reims, il est né près de la cathédrale, et il a vécu une grande partie de sa vie jusqu'à l'âge de 60 ans dans notre diocèse. Donc, vous le disiez, entre les années 1914 et 1970, quelque chose comme ça. Et à partir de là, il est parti en Afrique pour fonder un foyer de charité. Mais il est rémois avec tout ce que cela représente d'enracinement et de fidélité à ceux avec qui il a travaillé, en particulier dans la paroisse Saint-Louis, qui est la paroisse de l'hôpital de Reims. Et en même temps, il était aumônier de l'hôpital de Reims.
Et donc, puis professeur quand même de théologie au séminaire. C'était quand même un intellectuel.
Il a commencé son ministère par être 10 ans professeur de théologie au séminaire de Reims. Et ça l'a enraciné dans la découverte de l'évangile. Et ensuite, après, il a mis ça en œuvre dans ses actions auprès des personnes.
Il faut bien comprendre que, et c'est important que vous l'aviez rappelé, Claude Collignon. Il est rémois et enraciné dans la vie du diocèse de Reims jusque l'âge de 60 ans. Il avait déjà fait un parcours. C'est l'âge où beaucoup partent en retraite. Enfin, pas tout à fait maintenant, mais enfin, c'est un peu ça. Et pourtant, à 60 ans, il se passe quelque chose. Il a un nouveau tournant, une nouvelle aventure qui démarre.
Alors, il se trouve que pendant la période qui a suivi sa tâche de curé, il a été au service des laïcs, des religieux et des religieuses pour les aider à approfondir leur foi. Et il était tellement intéressant qu'il a été invité à beaucoup d'endroits, en particulier en Afrique et en Asie. Et il se trouve que les évêques du Burundi ont découvert dans le Père Locher quelqu'un qui pouvait les aider, parce que, on le sait, le Burundi a eu une période extrêmement troublée et il fallait remettre la paix entre les gens. Et c'était grâce à un foyer de charité qu'on pouvait le faire. Et le Père Locher a été invité à organiser ce foyer de charité avec une personne qu'on trouve souvent dans ses notes, qui s'appelle Monique Mazzoleni.
Qu'on a déjà interrogée ici.
Et qui a été fidèle à la mémoire du Père Locher. Elle a rassemblé tous ses écrits, un travail considérable parce qu'il écrivait beaucoup. Et il écrivait un peu dans toutes les revues, sans avoir la liste lui-même de ce qu'il avait écrit. Il a fallu de faire tout un travail de recherche. Bien.
Alors, vous rappelez, Claude Collignon, que c'est un excellent théologien, qu'à 60 ans, il part au Burundi, il fonde un foyer de charité, en particulier avec Monique Mazzoleni. C'est un excellent théologien, nourri de l'évangile, mais très proche des gens. Et même avant le Concile Vatican II, il avait déjà presque anticipé le problème et la question.
Alors, on est frappé quand on lit ses écrits, il a écrit quand même un certain nombre de livres en plus des articles, on est frappé par le fait suivant, c'est que pour lui l'Église, ce n'est pas une organisation. Parfois, on a tendance à voir l'Église comme une organisation avec une hiérarchie, etc. Pour lui, l'Église, alors je vais utiliser un mot qu'il utilise lui-même souvent, l'Église c'est un mystère d'amour. À ce titre que et les personnes qui font partie de l'Église, les chrétiens, eh bien, ils s'enracinent dans l'amour trinitaire. J'utilise des mots un peu difficiles, mais ça voulait dire quelque chose. L'amour trinitaire, c'est au cœur de l'évangile de Jésus. Jésus aime les gens parce que il est envoyé par son Père pour dire aux gens qu'ils sont ses enfants.
On peut dire que ces ouvrages ne sont pas théoriques, mais pleins de l'attachement à l'évangile.
Oui, alors il y a des ouvrages qui sont un petit peu théoriques quand même, parce que il essaye toujours d'exprimer le fond de son attachement. Mais on sent qu'il s'appuie constamment sur des exemples qu'il a vécu lui-même.
Il a déjà écrit plusieurs livres qui sont parus ces dernières années. Alors il y a Louis Locher, prêtre et prophète.
Alors ça, c'est pas lui qui l'a écrit. Si nos auditeurs veulent connaître la vie du Père Locher et puis sa pensée, et c'est ce livre-là qu'il faudrait lire, Louis Locher, prêtre et prophète, de Reims au foyer de charité, bien, c'est rempli de citations de ses articles, de ses discours, de ses homélies. Et ça permet de bien comprendre. Ensuite, on a édité de nouveau de ses livres, et en particulier deux petits livres de rien du tout, mais extrêmement profond, qui sont l'union à Dieu, âme de tout apostolat, et l'apôtre dans le mystère de l'Église. Or, ces deux livres, ce sont des fascicules, hein, ils remontent aux années 1950, et on se rend compte, quand on les relit, qu'il y a un peu du vocabulaire de l'époque, mais qu'il y a surtout une vision de l'Église qui précède déjà celle de Vatican II, du Concile Vatican II, et c'est étonnant.
Alors ces deux livres, vous le dites, hein, Claude Collignon, restent d'une étonnante actualité pour nous autres au XXe siècle. Alors ce livre qui vient de paraître, qu'on peut se procurer aux éditions Salvator, « Rien n'est perdu pour Dieu », avec le sous-titre « Une espérance pour l'Église du XXIe siècle ». Ce livre, il est préfacé par Mgr Éric de Moulin-Beaufort.
Alors Mgr Éric de Moulin-Beaufort est arrivé comme archevêque de Reims en 2018. Et il a découvert le Père Locher, il ne le connaissait pas, et puis il a trouvé que c'était quelqu'un qui pouvait nous aider dans le renouvellement de l'Église d'aujourd'hui. parce qu'il ne se contente pas de faire des plans pastoraux, mais il va à la racine de ce qu'est l'Église, avec ce mot « mystère » dont parle le Père Locher, le mystère d'amour de Jésus par rapport aux hommes et aux femmes de notre temps.
Monseigneur de Moulin-Beaufort écrit même que ce prêtre rémois peut continuer de soutenir et de conseiller de nombreuses personnes à travers le grand défi qu'affronte l'Église aujourd'hui. Ça, c'est quand même très important.
C'est très important que nous autres, les Rémois, on ait vécu avec et puis qu'on puisse retrouver maintenant la trace du Père Locher dans notre vie d'Église, dans notre vie spirituelle, dans
Merci.
Notre vie apostolique.
Merci Père Claude Collignon. Rien n'est perdu pour Dieu aux éditions Salvator. Père Louis Locher. Merci Claude Collignon.
Et rien n'est perdu non plus pour nos éditeurs que l'on retrouve demain à 18h10. Merci Jean-Pierre, merci Kylian. Bonne soirée.
Bonne soirée.